Préface de Fabrice Arfi. Une dictature au fond de la poche. La première fois que j'ai rencontré Laurent Richard, le co-auteur du livre audio que vous vous apprêtez à écouter, je n'imaginais pas combien le combat que nous nous apprêtions à mener ensemble allait se retrouver au cœur de toute l'œuvre journalistique qu'il bâtirait par la suite. C'était en 2015. Avec Laurent et quelques autres journalistes parisiens, nous nous sommes retrouvés, sidérés, autour d'une table, après avoir découvert qu'un amendement avait été discrètement glissé dans un texte qui devait être discuté les jours suivants à l'Assemblée nationale, la loi Macron, du nom de celui qui était alors un remuant ministre de l'économie et bientôt le plus jeune chef de l'État français depuis Louis-Napoléon Bonaparte. L'amendement prévoyait, sans discussion préalable, sans étude d'impact, sans rien, si ce n'est beaucoup de malignité, l'instauration soudaine dans le droit français d'un secret des affaires qui risquait de devenir aux affaires économiques ce que le secret défense est parfois à la chose militaire, un instrument légitime mais qui peut être facilement détourné de son objet pour empêcher le journalisme de rendre public, c'est-à-dire de rendre au public, les faits d'intérêt général appartenant par définition à n'importe quel citoyen. Notre inquiétude a pris la forme d'une association baptisée « Informer n'est pas un délit » et d'un combat qui a abouti à une victoire trop rapide pour être durable. Bien que l'amendement ait été retiré au dernier moment après une mobilisation qui a fédéré en un temps record l'immense majorité des médias français, le secret des affaires est réapparu quelques semaines plus tard, non plus par la petite lucarne législative française, mais par la grande porte du Parlement européen. Une directive tout aussi dangereuse était en gestation. Et rebelote, avec Laurent et de nombreux autres journalistes, mais également des juristes, des syndicalistes et des militants associatifs, nous avons repris notre bâton de pèlerin pour essayer de convaincre les instances européennes qu'un risque demeurait s'agissant d'une application mal intentionnée d'un secret des affaires par trop mal défini et trop mal contrôlé. En vain. Cette fois, la bataille fut perdue et l'avenir, malheureusement, donnera rapidement raison à nos craintes. Depuis la transposition de la directive européenne dans la loi française, on a ainsi vu le secret des affaires être opposé de manière totalement abusive et discrétionnaire à des journalistes qui enquêtaient, par exemple, sur des systèmes médicaux défectueux susceptibles de mettre en danger la santé du public. Mais il est des défaites parfois fertiles. J'ai d'abord appris à connaître Laurent Richard, non plus simplement comme un formidable journaliste, dont la réputation le précédait déjà depuis longtemps, mais comme un ami précieux. Et quand il m'a annoncé qu'il réfléchissait à créer une sorte d'ONG journalistique, dont le principe serait de poursuivre coûte que coûte les enquêtes des reporters emprisonnés, bâillonnés ou assassinés partout dans le monde, non seulement j'ai trouvé le concept aussi fou que génial, mais j'ai aussi saisi combien la bataille qui fut la nôtre, au sein d'Informer n'est pas un délit, n'était pas totalement étrangère à ce qui allait devenir le consortium Forbidden Stories. En avril 2021, Laurent m'a envoyé un message inhabituel. « Salut Fabrice, comment va ? Nous avons des informations très importantes sur Mediapart. C'est ultra confidentiel et assez urgent. Serais-tu au bureau par hasard, même si tu n'as que 10 minutes ?» Le genre de message dont il n'est pas besoin d'être grand clair pour mesurer à la fois l'urgence et le caractère hyper inquiétant. Tout affaire cessante, Laurent et Sandrine Rigaud, la rédactrice en chef de Forbidden Stories et la co-autrice du livre audio que vous vous apprêtez à écouter, se rendaient à Mediapart, nos bureaux respectifs sont à peu près à 5 minutes à pied dans Paris, pour une réunion d'urgence à laquelle assistera également le directeur et fondateur du journal, Edoui Plenel. C'est ainsi qu'a débuté pour Mediapart l'affaire Pegasus, 3 mois avant sa révélation mondiale. Une confidence doublée d'un choc. Laurent et Sandrine étaient venus nous dire que 2 personnes de Mediapart, Edoui Plenel et Lénaïque Bredoux, l'ancienne chef de son service politique, avaient été ciblées par un logiciel espion, Pegasus donc, conçu par une société israélienne, répondant au nom de NSO. Mediapart n'était plus dans cette histoire qu'un simple journal, mais une victime. Une parmi des dizaines, des centaines, des milliers d'autres, Nous expliquerons au fil des semaines les équipes de Forbidden Stories et du Security Lab d'Amnesty International, dont le travail a permis de documenter l'un des plus retentissants scandales d'espionnage de ces dernières décennies. Quelques faits pour mémoire. Le scandale Pegasus a percé au grand jour dans la soirée du 18 juillet 2021, révélant des faits d'une ampleur inédite en partenariat avec une quinzaine de médias internationaux comme Le Monde en France, Le Washington Post aux États-Unis ou Le Guardian au Royaume-Uni. Au total, plus de 80 journalistes ont épluché pendant plusieurs mois une fuite de données massive permettant d'identifier les cibles potentielles de cette surveillance. 50 000 numéros de téléphone répartis dans 50 pays et sélectionnés par les clients de NSO, une entreprise étroitement liée à l'armée israélienne qui affirme ne vendre son logiciel Pegasus qu'à des gouvernements. L'enquête de Forbidden Stories nous apprend que les propriétés du logiciel Pegasus sont redoutables, grâce à une technologie dite « zéro clic ». Nul besoin d'accéder à un lien corrompu, aucune manipulation de l'utilisateur ciblé n'est nécessaire. Le logiciel prend seul le contrôle d'un appareil et, théoriquement, peut avoir accès à l'intégralité du contenu d'un téléphone en temps réel. Il peut même permettre d'activer à distance et de manière totalement invisible le microphone et la caméra de l'appareil infecté. Il ne s'agit donc pas d'une simple écoute téléphonique ou d'un classique piratage de messagerie, mais d'un véritable changement de paradigme dans la collecte, légale ou illégale, de données, et, partant, de possibles atteintes à la vie privée, à la sécurité nationale, aux libertés publiques et à toutes sortes de secrets professionnels. Les victimes identifiées par l'enquête de Forbidden Stories et ses partenaires n'ont rien à voir avec des suspects dans des affaires criminelles ou terroristes, ce qu'assure NSO dans sa communication officielle, mais sont pour l'essentiel des membres de la société civile, des journalistes, des opposants politiques ou des activistes. Et parfois, des diplomates, des magistrats, des avocats, voire des hommes et femmes politiques de premier rang. Vu les profils des personnes espionnées, il s'agit aussi de violations de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, de la liberté d'informer et de violations potentielles de l'état de droit. Finalement, le projet Pegasus trahit une violation des principes démocratiques, réagira à juste titre la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, au lendemain de la révélation du scandale. Au total, 11 pays clients de NSO et utilisateurs du logiciel Pegasus ont été identifiés par l'enquête de Forbidden Stories. Il s'agit du Maroc, de l'Inde, du Mexique, de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du Rwanda, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Togo, du Bahreïn et enfin de la Hongrie, seul pays européen mis en cause. À lui seul, le Maroc de Mohamed VI, paradis touristique et enfer pour les droits humains, est soupçonné d'avoir ciblé 10 000 numéros. Parmi ceux-ci figurent les téléphones de deux journalistes de Mediapart espionnés. Edoui Plenel a vu son mobile infecté quelques jours seulement après un déplacement au Maroc durant lequel il avait publiquement affirmé son soutien aux militants des droits de l'homme. Quant à Lénaïque Bredoux, aujourd'hui responsable des questions de genre au sein du journal, elle était depuis 2015 dans le collimateur de l'appareil sécuritaire du Royaume pour avoir écrit plusieurs articles sur les relations complaisantes de la France avec les services secrets du Maroc et leur chef, Abdellatif Amouchi, soupçonné de complicité de torture. Parmi les conséquences directes des révélations de Forbidden Stories, une enquête judiciaire a été ouverte en France. Désormais entre les mains d'un juge d'instruction, Serge Tournaire, elle vise une liste de délits qui, à eux seuls, disent l'ampleur du dossier. Atteinte à l'intimité de la vie privée, association de malfaiteurs, interception, détournement, utilisation et divulgation des correspondances, introduction, extraction, transmission, reproduction frauduleuse dans un système de traitement automatisé de données, etc. Au total, 23 personnes ont été répertoriées par la justice française comme victimes de Pegasus, grâce aux constatations techniques de deux services français, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI, et la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI.